Euradio présente Enquête d'Europe.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Je m'appelle Jasmine Quérault et aujourd'hui nous vous proposons de vous donner plus d'explications sur la question de l'eau en Europe face aux défis de demain avec Salvie Abrahamian. Nous sommes toutes deux étudiantes dans le Master Sciences Politiques de l'Europe à l'Université de Nantes et nous sommes aujourd'hui sur Euradio dans le cadre de l'émission Enquête d'Europe.
Questionner l'eau face aux défis de demain invite à s'interroger sur plein de problématiques différentes. La pollution des eaux aurait pu être abordée, mais l'actualité a permis de mettre en lumière la problématique de la sécheresse qui a touché l'Europe avec une ampleur inédite pendant l'été 2022.
Ainsi, pour revenir sur l'actualité, l'Europe a été particulièrement frappée par des épisodes caniculaires de juillet et août 2022. Des records de chaleur ont été constatés au Royaume-Uni et en France. Les fortes chaleurs combinées à la sécheresse ont provoqué des incendies à travers l'Europe, notamment au Portugal, en Roumanie, en Espagne, en France et en Italie. Au-delà de ces incendies, c'est plus globalement un niveau inédit de sécheresse qui a été observé en Europe. Les experts du Centre commun de la recherche de la Commission européenne estiment que la situation actuelle est la pire depuis 500 ans. En août 2022, c'est 47% du territoire de l'Union européenne qui était en état d'avertissement de sécheresse, signifiant un niveau de sécheresse préoccupant. Cette sécheresse s'observe à travers le niveau des fleuves et rivières qui ne cessent de diminuer et l'absence de précipitations aussi, qui ne permet pas de venir recharger les nappes phréatiques.
Pourquoi revenir sur cette problématique de la sécheresse ?
Eh bien, lorsque l'on s'intéresse à la question de l'eau face aux défis de demain, il faut prendre en compte les conséquences du dérèglement climatique. Et la sécheresse est l'une de ces conséquences. Le rapport du GIEC, publié en février 2022, revenait sur les conséquences du dérèglement climatique. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ce sont des experts qui observent les évolutions du climat et leurs conséquences face à la vulnérabilité de certains territoires et certaines populations. C'est aussi un groupe d'experts qui recherche des solutions pour amoindrir, limiter le réchauffement climatique. Le GIEC souligne que depuis les années 1970, des sécheresses plus sévères et plus longues ont été observées sur de larges étendues. Les sécheresses sont donc un phénomène qui tend à s'accroître. Le groupe d'experts impute cette évolution à l'augmentation des températures et la diminution des précipitations. Le rapport de février 2022, qui est le deuxième volet du sixième rapport du GIEC, revient sur l'évolution des risques, l'adaptabilité et la vulnérabilité. Ce rapport de février 2022 prévoit que la sécheresse aura un impact de plus en plus marqué en Europe. Et concernant l'Europe du Sud et le bassin méditerranéen, le GIEC prévoit une augmentation nette et importante des conséquences de la sécheresse. Les scientifiques spécialistes du changement climatique observent donc que le phénomène de sécheresse s'étend de plus en plus et s'intensifie. La sécheresse est donc un défi qui vient peser sur les politiques de l'eau, et c'est ce dont nous allons traiter aujourd'hui.
Il s'agit dans ce podcast de revenir sur les épisodes de sécheresse en Europe et donc observer en quoi les sécheresses de l'été 2022 sont un signal d'alarme qu'il ne faut cette fois-ci pas ignorer. Il sera question de voir en quoi la situation de sécheresse en Europe est préoccupante. Tout d'abord, il faut revenir sur le climat européen pour comprendre le caractère problématique des sécheresses qui s'intensifient. Donc en quoi la présence du phénomène de sécheresse a une telle intensité et problématique en Europe ?
Pour comprendre en quoi la sécheresse a une telle ampleur et problématique en Europe, il faut comprendre le contexte du climat européen. Le climat européen apparaît globalement tempéré, mais il n'est pas uniforme. Les pays du sud de l'Europe, du pourtour de la Méditerranée, bénéficient d'un climat plutôt humide en hiver, mais sec en été. La façade atlantique de l'Europe présente un climat océanique plutôt doux. Les pays du centre de l'Europe ont plutôt un climat continental qui est caractérisé par de grands contrastes de température en fonction des saisons. Il existe aussi le climat polaire qui s'observe dans l'extrême nord de l'Europe et le climat montagnard qui, comme son nom l'indique, est le climat des régions montagneuses. Certains pays sont plus fréquemment touchés par des sécheresses, notamment en été, et cela est dû aux spécificités de leur climat. C'est le cas des pays du sud de l'Europe, comme l'Italie ou l'Espagne, qui ont un climat sec en été. Ce sont d'ailleurs ces pays qui sont les plus durement touchés par le réchauffement climatique. Comme on le rappelait un peu plus tôt, ce sont surtout les pays du sud de l'Europe, pays au climat méditerranéen, qui ont pu être touchés par de grands incendies de l'été 2022. Le manque d'eau a donc d'abord touché les pays du sud de l'Europe, mais on remarque que cela commence à toucher les pays qui ne sont pas caractérisés par le climat méditerranéen de l'Europe. Les pays tempérés ont souvent été perçus comme des pays à l'abri des phénomènes de sécheresse intense, mais l'été 2022 a montré le contraire. La crise de sécheresse de cet été a montré la vulnérabilité des pays qui se pensaient à l'abri et qui voyaient le réchauffement climatique chez les autres, mais ne l'envisageaient pas sur leur territoire. La sécheresse a été particulièrement importante puisqu'elle a touché les pays du sud de l'Europe et les pays tempérés également. Cet étalement du phénomène de sécheresse est inquiétant au vu des limites de la ressource eau. Mais comment expliquer cette sécheresse ? L'hiver 2021-2022 a été très sec et a enregistré peu de précipitations. Il n'y a donc aucune recharge des nappes qui permettent habituellement d'offrir une réserve en eau douce lors des périodes plus sèches.
Mais au-delà du contexte du climat européen, l'impact de la sécheresse est particulièrement marquant du fait de la caractéristique particulière de l'eau douce sur Terre. C'est une ressource rare.
Oui, l'eau sur Terre, c'est une ressource rare, l'eau douce. Pour donner un ordre d'idée, l'eau, ça recouvre 72% de notre planète. Mais l'eau sur Terre a plusieurs formes. L'eau salée représente 97 à 97,5% selon les estimations de l'eau disponible sur Terre. Et donc, si on s'intéresse uniquement à l'eau douce, on s'intéresse à 3, voire 2,5% de l'eau sur Terre. Et cette eau douce, elle correspond aux calottes glaciaires, aux lacs, rivières, aux eaux stockées par les nappes phréatiques. Si on reprend des chiffres diffusés par de nombreux médias et organismes comme le CIO, le Centre d'information sur l'eau, l'eau douce est répartie entre calottes glaciaires, des aquifères ou nappes souterraines et l'eau de surface. La glace ou la neige représente 69% de l'eau douce sur Terre. Les nappes souterraines représentent près de 30% de l'eau douce. L'eau liquide, visible en surface, dans les lacs et cours d'eau, représente ainsi à peine 1% de l'eau douce sur Terre. L'eau douce sous forme liquide est donc une ressource rare sur Terre. C'est une ressource précieuse, car indispensable à la survie humaine. Toutefois, notre usage de l'eau n'est pas des plus responsables. Et l'eau est une ressource qui ne cesse de s'amenuiser. Donc on peut se demander, comment expliquer la raréfaction de l'eau? Quelles sont les causes de cette raréfaction?
L'Europe utilise des mètres cubes d'eau chaque année pour boire, mais aussi pour l'agriculture, la fabrication, le chauffage et le refroidissement des centrales nucléaires, entre autres. Au vu de l'utilisation importante de l'eau en Europe, les ressources en eau en Europe peuvent donc laisser penser que le stock d'eau est infini. Mais en réalité, avec la croissance de la population, la pollution et le dérèglement climatique, la ressource s'amenuise. Cet épuisement s'observe à travers des problèmes d'approvisionnement sur la qualité de l'eau et implique in fine des conséquences environnementales. Cette tendance de raréfaction de l'eau s'observe depuis plusieurs années. Comme l'indique l'Agence européenne pour l'environnement, à l'été 2015, les ressources en eau douce renouvelable étaient 20% inférieures à celles de l'année 2014 à la même période. L'agence explique que cela est dû à une baisse globale des précipitations de 10%. Ainsi, les étés secs existent déjà depuis plusieurs années, mais ils n'étaient pas d'une telle ampleur. La situation était moins préoccupante et alertait moins les décideurs politiques.
Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau utilisable s'amenuise. L'eau devient une ressource plus rare. Mais quelle est son utilisation en Europe?
L'usage de l'eau en Europe est partagé entre différents secteurs économiques. Les prélèvements et usages de l'eau varient entre ces secteurs. Le premier secteur exploitant la ressource est l'agriculture. L'Agence européenne pour l'environnement chiffrait en 2018 la consommation du secteur agricole à 40% de l'eau en Europe. Ce pourcentage est amené à évoluer en fonction des saisons et du changement climatique. En effet, la part d'exploitation de la ressource eau par le secteur agricole peut augmenter jusqu'à plus de 60% des ressources disponibles en été. Le secteur énergétique consomme également une grande partie de l'eau en Europe. Le refroidissement de centrales nucléaires, l'exploitation minière, bon nombre d'activités du secteur énergétique ont besoin de l'eau. La consommation de la production énergétique s'élève quant à elle à 28%. L'agriculture et l'énergie sont les deux secteurs qui utilisent le plus la ressource eau en Europe. L'Agence européenne pour l'environnement explique que l'usage de l'eau à des fins agricoles s'observe le plus en Europe du Sud et que l'usage dans le secteur énergétique s'observe plutôt en Europe de l'Ouest et de l'Est.
Mais du coup, est-ce une utilisation durable? Quelles sont les conséquences de la surexploitation de l'eau?
La surexploitation de l'eau va finir par entraîner une situation de stress hydrique. De manière globale, le stress hydrique touche déjà des pays tels que l'Afrique du Sud et l'Égypte, qui se trouvent face à des déficits d'approvisionnement en eau. Le stress hydrique ou pénurie d'eau est une situation qui survient lorsque les ressources en eau disponibles sont inférieures à la demande en eau. Le stress hydrique implique dans certains cas des situations où il y a de l'eau mais sa qualité est insuffisante et son usage doit être restreint. C'est le cas des eaux polluées devenues non potables par exemple. Le stress hydrique devient aujourd'hui également un risque majeur en Europe, comme le qualifie l'Agence européenne pour l'environnement, la quantité d'eau est sous pression. La demande en eau étant supérieure à la quantité d'eau disponible, elle constitue un élément de pression. Ce stress hydrique est aussi la conséquence de la surexploitation des ressources en eau douce et de la qualité de l'eau qui se détériore de plus en plus. Il y a principalement quatre grandes causes du stress hydrique et donc de la raréfaction de l'eau. La pression sur l'eau peut être due, dans un premier temps, au prélèvement intensif de l'eau qui impacte le cycle de l'eau et rend l'eau potable moins accessible dans un contexte de réchauffement climatique. Une autre cause est l'augmentation de la population. Cette augmentation a un impact sur les réserves de la planète car elle implique une augmentation de l'usage de l'eau dans un contexte domestique. La troisième cause identifiée est le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique entraîne des catastrophes naturelles ou des inondations qui impactent les ressources en eau. La sécheresse survient dans des zones inhabituelles dues à l'augmentation de l'évaporation des sols. C'est un phénomène que nous avons pu constater à l'été 2022. La sécheresse a touché des pays de l'Europe au climat tempéré tel que l'Allemagne ou encore la France. Enfin, la dernière cause expliquant la situation de stress hydrique est la déforestation qui impacte aussi fortement le cycle de l'eau. La déforestation va provoquer un assèchement et même parfois une désertification de certains espaces. Tout ceci entraîne des conséquences sur la végétation, notamment à travers l'agriculture, mais on observe aussi un impact sur la qualité de l'eau qui est de plus en plus dégradée. La surexploitation affecte le cycle de l'eau et est une des causes envisageables expliquant une situation de stress hydrique. Les origines de la sécheresse que nous avons connue avec les épisodes caniculaires à l'été 2022 sont la conséquence de différents facteurs tels que le manque de pluie ou encore une utilisation trop intensive de l'eau disponible. Ce sont ainsi à la fois des facteurs météorologiques inédits et l'usage de l'eau par nos sociétés qui ont un impact sur la raréfaction de la ressource. On peut se demander concrètement quelles sont donc les conséquences de la raréfaction de l'eau et de la sécheresse continue.
Il y a de nombreuses conséquences de la sécheresse dans un contexte de raréfaction de l'eau. Au niveau du continent européen, dans les pays développés, ce ne sont pas les mêmes conséquences dramatiques que dans le sud global que l'on peut observer. Je voulais revenir sur deux aspects particuliers concernant l'Europe, qui s'intéressent à la perméabilité des sols et les conséquences directes. On va revenir rapidement sur l'impact de la sécheresse sur les nappes phréatiques, mais aussi sur la question de l'agriculture. Concernant les nappes phréatiques, on a pu le mentionner un petit peu avant, mais la sécheresse particulière de l'été 2022 peut être expliquée par le manque de précipitations durant l'hiver 2021-2022 et la faible recharge des nappes souterraines. Le Bureau de recherche géologique et minière indiquait que les pluies du début de l'été 2022 n'avaient pas été suffisantes pour atteindre les nappes et pénétrer en profondeur. Ces pluies de juin n'avaient servi, je cite, qu'à humidifier les sols. Le souci de la sécheresse continue et le manque de précipitations, c'est que cela entraîne un assèchement poussé des sols. Les pluies sont insuffisantes et l'eau ne s'infiltre pas ou très difficilement. On assiste à un ruissellement d'eau sur les sols. Et ce ruissellement, dû à la sécheresse accrue des sols, implique que l'eau ne s'infiltre pas et donc que les nappes phréatiques ne se remplissent pas. Et c'est là le souci. Le risque de sécheresse est aussi lié au risque inondation sur ce point du ruissellement. Car les sols ne pouvant plus absorber les fortes pluies, cela va avoir pour conséquence d'entraîner des inondations dans les espaces où la terre est imperméable. Cette imperméabilité des sols s'observe notamment dans les milieux urbains, qui sont donc aussi impactés par la sécheresse. Concernant les nappes phréatiques françaises, le Bureau de recherche géologique et minière revenait dans un communiqué de presse sur la situation des nappes au 1er août 2022 et soulignait des niveaux inquiétants dans certaines régions de France. Cette sécheresse continue a des impacts non négligeables sur les cultures et amène aujourd'hui à questionner nos modes de consommation. L'une des conséquences majeures de la sécheresse en Europe va concerner les cultures. Comme nous avons pu le mentionner précédemment, le secteur agricole, ça représente 40 à 60% de l'utilisation de l'eau en Europe. Il faut donc appréhender l'impact de la sécheresse sur l'agriculture européenne. Ce qui est super intéressant, c'est que le site du GIEC, donc IPCC, The Intergovernmental Panel on Climate Change, il y a des atlas sur ce site qui reviennent sur l'impact du changement climatique et sur les protections agricoles, entre autres. Les atlas issus du rapport du GIEC indiquent que le risque de sécheresse varie en Europe entre risque faible en Europe centrale et Europe du Nord et un risque modéré à important en Europe de l'Est et Europe du Sud. Cela rejoint les travaux qui indiquent que l'Europe du Sud sera celle la plus violemment touchée par les problématiques de sécheresse dans les années à venir. Ce qui est préoccupant, c'est que la raréfaction de l'eau touche les pays de l'Europe du Sud, qui sont déjà les plus durement impactés par la sécheresse. Mais ces pays sont également ceux qui vont être très demandeurs en eau au niveau agricole. C'est ce que soulignait l'Agence européenne pour l'environnement qui expliquait que l'usage de l'eau à des fins agricoles s'observe le plus en Europe du Sud. Face aux défis de demain et la raréfaction de l'eau en Europe, ce sont nos modes de production et de consommation qui doivent être revus. Dans ce contexte météorologique inquiétant où la ressource en eau se raréfie, on peut se demander comment l'eau et l'usage de l'eau sont réglementés en Europe. Et si les mesures existantes sont suffisantes pour prendre en compte les défis de demain.
Pour parvenir à préserver cette ressource de plus en plus rare, l'Europe a mis en place la directive cadre sur l'eau en 2000. Cette directive oblige et impose des grands principes pour une politique de développement durable dans le domaine de l'eau. L'objectif était d'atteindre un bon état de l'eau d'ici 2015. L'enjeu est d'avoir un bon état général des eaux souterraines, des eaux superficielles et des eaux estuariennes côtières en Europe. Cette directive de 2000 fixe également d'autres objectifs tels que la non-dégradation des ressources et des milieux, la réduction des pollutions liées aux substances, le respect des normes dans les zones protégées.
Mais depuis, y a-t-il eu des mesures européennes plus strictes autour de l'usage de l'eau ?
À l'échelle européenne, il n'y a pas de mesures de restriction à proprement parler qui sont mises en place. Cela se définit plutôt à l'échelle nationale. La directive cadre sur l'eau européenne, à l'échelle nationale, vient renforcer les différentes lois sur la gestion et la préservation de l'eau. Pour illustrer le propos, je vais prendre l'exemple de la France. En France, nous considérons l'eau comme un patrimoine commun de la nation. La politique de l'eau est organisée par bassins hydrographiques. En France, il y a 7 grands bassins en métropole et 5 en outre-mer. Le préfet de région coordonne la gestion de l'eau afin d'assurer les actions menées par l'État. Toutes ces actions sont définies dans des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Il existe également des agences de l'eau qui sont sous l'autorité du ministère de la Transition écologique. Il existe également des agences de l'eau qui sont sous l'autorité du ministère de la Transition écologique. Ces agences assurent la gestion et la préservation des ressources en eau. Il existe également un comité national de l'eau composé de représentants des usagers, des collectivités territoriales et de l'État, entre autres. Ce comité peut se prononcer sur les grandes orientations de la politique de l'eau. Les établissements publics de coopération intercommunale se voient aussi attribuer des compétences qui découlent de la loi MAPTAM et de la loi NOTRe. Il y a donc une multitude d'acteurs qui interviennent autour des politiques de l'eau. L'un des acteurs principaux sur lesquels repose la gestion de l'eau en période de crise est le préfet de bassin. Son rôle a été renforcé depuis juin 2021. Il peut désormais, par un arrêté, fixer des mesures de restriction d'eau. Ainsi, en cas de sécheresse, il y a différentes échelles de gouvernance qui se coordonnent pour mettre en place, lorsqu'il est nécessaire, des mesures spécifiques de restriction. Le préfet coordonnateur de bassin va avoir un rôle essentiel en la matière puisqu'il arrête les orientations à mener pour la gestion de crise sur l'ensemble du bassin et ainsi fixe les conditions de restriction. Ainsi, l'Union européenne n'a pas la main mise pour organiser la gestion de l'eau. Ce sont des acteurs nationaux qui ont la main. Le média Euronews relayait que l'Union encourage au recyclage des eaux usées et qu'un règlement sur la réutilisation de l'eau pour éviter le gaspillage sera applicable en juin 2023. Des initiatives régionales et locales comme le projet Jourdain en Vendée voient également le jour pour trouver des solutions face à la menace de plus en plus pesante de la sécheresse sur la question de l'eau.
En conclusion, la problématique de la sécheresse en Europe a été mise sur le devant de la scène par les épisodes caniculaires et les impressionnants incendies de l'été 2022. Ces événements constituent des focusing events qui, par leur gravité et leur ampleur sans précédent, vont alerter l'opinion publique et les décideurs sur la question de l'eau et de la sécheresse. Il est nécessaire que les politiques et particuliers s'emparent de la question, car comme de nombreux scientifiques le répètent, et comme la climatologue Valérie Masson-Delmotte l'indiquait pour le journal L'Humanité, nous ne sommes pas prêts. Et l'un des obstacles principaux à la mise en place de solutions aux problématiques touchant le réchauffement climatique est le manque d'implication des acteurs. Les défis de demain requièrent la mise en place de solutions dès à présent, mais cette urgence n'est pas traitée comme telle par les individus, à la fois particuliers, mais aussi les entreprises et élus. Il apparaît difficile de ne pas être défaitiste sur la question de l'environnement et du réchauffement climatique lorsque l'on observe l'inaction et l'insouciance de l'ensemble d'une société face aux défis de demain, mais des solutions sont en réflexion.
C'était Enquête d'Europe. Une émission animée par les étudiants en Master de Sciences Politiques de l'Europe de l'Université de Nantes. Enquête d'Europe à retrouver dès maintenant en podcast sur euradio.fr.